9h, 10h, Voix au chapitre avec Samia Messaoudi sur Beurre FM.
Bonjour à tous, bonjour à toutes, merci d'être à l'écoute de Beurre FM. Comme chaque semaine, c'est Voix au chapitre. Merci de votre fidélité hebdomadaire, le plaisir de vous retrouver. Bonjour, Tramer Kemener.
Bonjour.
Bonjour, le plaisir de vous retrouver, vous aussi, Tramer Kemener. Vous êtes avec vos livres, un rendez-vous important à Beurre FM, en tout cas pour évoquer le travail important que vous faites sur la question de l'Algérie, de la guerre d'Algérie. Voici un nouveau livre qui vient de paraître, il s'appelle « Vivre en Algérie du 19e siècle au 20e siècle ». Il est paru aux éditions Nouveau Monde et il est en coédition avec le ministère des Armées et de le CPAD. Vous nous direz dans un instant de quoi il s'agit. Vous présentez d'abord, Tramer Kemener, vous êtes historien, vous êtes membre de la commission Mémoire et Vérité, qui a été mise en place à la suite du rapport de Benjamin Stora. Vous êtes membre aussi du conseil d'orientation du Palais de la Porte Dorée, du Musée National de l'Histoire de l'Immigration. Vous êtes chargé de cours à l'Université de Paris 8, et vous êtes surtout auteur de nombreux ouvrages, vous l'aurez compris, sur la question de l'Algérie, de l'histoire de la guerre d'Algérie, de l'histoire coloniale. Et ce tout dernier livre est tout à fait intéressant puisqu'il marque une originalité, une audace, une nouveauté justement dans ce regard qu'on peut porter sur l'Algérie aujourd'hui. Alors peut-être, on a dû vous la poser quelques fois, comment vous vous êtes intéressé à l'Algérie? Voilà plus de 20 ans que vous écrivez sur l'histoire de l'Algérie, alors étudiant en histoire sans doute, un intérêt pour l'Algérie en particulier?
Oui, alors en fait non, c'est venu au fur et à mesure, progressivement. Ce qui m'interpellait beaucoup à l'époque, c'était la question du refus de la guerre. Le refus en fait des personnes qui sont appelées en fait à participer à la guerre et puis qui refusent en fait, qui refusent les guerres. Et donc c'était cette question-là, de la désobéissance aussi, de tous ces éléments-là qui m'intéressaient. Et là, en fait, il y a eu une conjonction aussi avec... donc je travaillais moi dans une organisation internationale de défense des droits de l'homme, la FIDH à l'époque. Et en fait, une des affaires quotidiennes à l'époque, c'était évidemment la guerre civile en Algérie.
Les années 90, ouais, 95.
Les années 90, la décennie noire. Et donc ça, c'était quelque chose évidemment de très marquant. Et c'est là, en fait, en défendant aussi les défenseurs des droits de l'homme et tout ce qui pouvait se passer en fait en Algérie, qu'on appréhendait mal évidemment de France aussi, que je me suis rendu compte en fait qu'il était question, ça fait ressurgir, vraiment ce qu'on appelait la première guerre d'Algérie, la guerre d'indépendance en fait algérienne. Et donc par effet de ricochet, en fait, on parlait des violences qui ressurgissaient en fait, et des violences, une sorte de retour du refoulé aussi de cette première guerre, première guerre d'Algérie entre guillemets, à savoir la guerre d'indépendance. On a parlé après de deux premières, deuxième et troisième guerre d'Algérie, puisqu'il y a la guerre de conquête auparavant encore, mais ça c'est une autre histoire. Au moment des années 90, en fait, je me suis rendu compte que finalement cette guerre d'indépendance, je la connaissais très mal. Et je me suis rendu compte que les personnes en fait qui avaient refusé de participer à cette guerre-là, en fait, il en était très peu question. Or, le statut des objecteurs de conscience date.
Et des déserteurs.
Et donc, alors les objecteurs de conscience.
C'était une autre chose.
Le statut légal des objecteurs de conscience, qui donc faisaient un service civil à la place du service militaire, en fait, datait de décembre 1963. Et je me suis dit que, en fait, il y avait dû avoir des personnes qui avaient refusé de participer à la guerre d'Algérie. Mais qu'est-ce qu'il en était pour eux, des objecteurs de conscience, mais aussi des déserteurs et des insoumis. Et c'est là que j'ai vu, en lisant un livre de Benjamin Stora, une note de bas de page dans laquelle il parlait de quelques centaines de personnes, 500, qui avaient refusé de participer à cette guerre. Et c'est là que, du coup, je l'ai contacté pour faire ma thèse sur ces personnes-là, parce que je me suis dit que c'était sur eux que j'avais envie de travailler.
Et une thèse, c'est des années de travail, et ça donne des publications ensuite.
Ouais, tout à fait.
Donc, Tramer Kemener, vous nous présentez ce matin ce « Vivre en Algérie du 19e siècle au 20e siècle », paru aux éditions Nouveau Monde, je l'ai dit, un livre coédité par le ministère des Armées et le CPAD. Dites-nous ce qu'est le CPAD.
Alors, le CPAD, en fait, c'est l'ancien service cinématographique des armées. aujourd'hui, c'est le service de production audiovisuelle des armées, en fait. Donc, c'est effectivement une instance officielle du ministère des Armées qui est chargée de prendre toutes les photos et les vidéos en tant que telles. Alors, pourquoi est-ce qu'ils sont aussi partie prenante à l'intérieur? C'est parce qu'il y a, en fait, beaucoup de photos qui proviennent de leur fonds. En fait, c'est un fonds qui est gigantesque, en fait, parce qu'on imagine bien, pendant la guerre d'Algérie en particulier, que les armées, évidemment, étaient complètement partie prenante, à la fois, évidemment, en tant qu'outil de répression, outil guerrier en tant que tel, et outil de propagande aussi. Et donc, évidemment, ces photographies et ces films qui ont été réalisés pendant la guerre d'indépendance, c'était, évidemment, à cette fin-là. Sauf que il y a aussi, en fait, donc cet aspect-là, mais il y a aussi, en fait, des personnes qui, pour échapper au service militaire, échapper à la répression en tant que telle, ont plutôt fait leur service militaire dans un cadre, on va dire, civil. Donc il y a eu tout cet aspect-là, en fait, qui a été une sorte d'échappatoire aussi. Et pour certains, en fait, ça a été aussi une possibilité de... ça a été une possibilité, finalement, de tourner des films, de prendre des photographies qui ne soient pas exactement, en fait, dans ce qui était attendu de la part des armées. Par exemple, je pense à Marc Garanger.
J'allais nommer Marc Garanger, bien évidemment, qui était quelqu'un qui, au lieu de faire son service militaire, lui a été, en même temps, il a été sollicité pour faire les photos de ses femmes, hein, oui, pour faire des photos, la photo d'identité, parce que dans ce livre, vraiment, on ne pourra pas parler des près de plus de 200 photos hein, dans ce livre, en noir et blanc, en sépia, en couleur, donc qui vont d'hier, enfin, voire d'avant-hier à aujourd'hui. Mais il y a les photos des familles, les photos de Marc Garanger, donc, dont on parlait il y a un instant, qui lui avait été sommé, si je puis le dire ainsi, de faire les photos d'identité de toutes ces femmes algériennes pour faire les photos d'identité. Mais dans toutes les familles françaises, on peut dire qu'il y a quelque part dans les boîtes de photos familiales, il y a des photos.
Oui, complètement.
Des appelés qui sont partis, qui voilà.
Ce matin, j'avais quelqu'un au téléphone qui va m'envoyer en fait des photographies de son père décédé. Et pour elle, en fait, c'est une charge trop lourde à porter, en fait. Donc c'est avec plein d'émotions, en fait, qu'elle m'a téléphoné, parce que je me fais le dépositaire aussi de l'histoire de son père.
Parce que c'est un outil pour l'historien que vous êtes, les photos personnelles.
Oui,
ça sûr. Enrichit le travail de l'historien.
Oui, tout à fait. Depuis les années 2010, j'avais fait deux ouvrages aux éditions Les Arènes, l'un avec Benjamin Stora, qui reprenait déjà aussi à la fois tout ce qui était les journaux, les carnets, les récits, les lettres.
Très très beau, très très bel album objet, on le disait à l'époque.
Oui, tout à fait, un livre objet, effectivement, où on retrouve des facsimilés d'archives en tant que telles. Et ça avait été déjà un livre très fort sur lequel j'avais travaillé. Ça avait été une expérience formidable, parce que on touche l'histoire aussi par tous ces biais-là, et on touche à la fois l'histoire intime, l'histoire vraiment très personnelle, et en même temps cette histoire vraiment générale aussi, parce qu'elle nous concerne tous finalement. Comment les gens ont été vraiment frappés de plein fouet par l'histoire, avec un grand H, si on veut, ou avec une grande H, comme disait Georges Perec. Comment ça a été, évidemment, une expérience extrêmement, extrêmement dure en tant que telle. Et comment, on va dire, on le vit tout cela aussi à travers toutes ces traces-là individuelles qui permettent de réinterroger également la grande histoire. Parce que les gens tels qu'ils ont vécu cette histoire-là, en fait, ça permet en fait de mieux appréhender la véritable histoire, parce qu'il y a beaucoup de choses en fait dont on parle et qui ne sont pas la réalité en tant que telle.
La photo, elle est aussi une transmission générationnelle. Les photos du grand-père qui revient de la guerre et qui montre à ses petits-enfants, ça fait aussi partie à la fois d'une charge émotive, évidemment, mais de l'histoire avec un grand H.
Oui, bien sûr. Ouais. C'est la photo, la force de la photo, c'est évidemment que, on le dit, une photo vaut mille mots. En fait, plutôt que de dire beaucoup de choses, par l'écrit, en fait, de plus en plus, on est aussi dans une société visuelle, à la fois, évidemment, avec les réseaux sociaux, du film et de la photo. Mais évidemment, il y a une force de cette photo-là. Elle parle à tout le monde directement, en fait. Il n'y a pas de processus intellectuel à avoir pour pouvoir comprendre une image. Donc, c'est aussi très important de réinterroger, en fait, toute l'histoire à travers le visuel.
Tramer Kemener, vivre en Algérie du 19e au 20e siècle, c'est le titre de son ouvrage. Nous en parlons ce matin dans Voix au chapitre. Je rappelle que ce livre vient de paraître aux éditions Nouveau Monde. On le retrouve dans un instant.
Voix au chapitre revient dans un instant. Beurre FM, 9h-10h, Voix au chapitre avec Samia Messaoudi.
Je rappelle que je reçois ce dimanche matin Tramer Kemener, historien. Il est l'auteur du livre « Vivre en Algérie du 19e au 20e siècle ». Ce livre vient de paraître aux éditions Nouveau Monde. Il s'agit de photos, plus de 200 photos qui sont issues du ministère des Armées. Des photos en noir et blanc, en sépia, en couleur, selon le temps, puisque si l'on part du 19e siècle, bien évidemment, on est dans le sépia. Des photos de l'armée, mais des photos de l'armée au sens guerrier, enfin de la guerre, mais aussi des photos d'intérieur, des photos de la vie quotidienne. C'est aussi le parti pris que vous avez eu dans le choix de ces photos. On reviendra sur la construction de ce livre dans le temps. Mais c'est aussi vous qui légendez ces photos, même si ces photos sont nommées par le photographe quelquefois ou anonymes. En tout cas, vous avez la recherche historique d'expliquer, d'exprimer ce que représentent ces photos. C'est important aussi, ça. Une photo peut parler d'elle-même, mais en même temps, donnons-lui quand même une compréhension autre.
Oui, bien sûr, il faut bien sûr redonner un cadre historique et le travail de l'historien est là pour ça. Alors, je tiens à préciser quand même, il y a évidemment une majorité de photos, enfin la moitié à peu près, sur même plus, enfin 300 photos, sont à peu près 150 viennent de l'ECPAD. Et après, il y a des photos également de la Bibliothèque nationale de France, avec des photos qui, notamment des fonds anciens, mais plus récents aussi, donc des fonds anciens du 19e siècle qui ont.
Qui ne sont jamais sortis, on peut le dire comme ça.
En fait, ouais, jamais sortis. La quasi-totalité des photos ici que je présente, ce sont
inédites.
Qui sont vraiment totalement inédites. C'est le parti pris aussi, hein, c'est de montrer des photos qui finalement ne sont pas connues et puis sur un aspect qui est justement un peu laissé pour compte en général. C'est-à-dire que quand on parle de l'Algérie, qu'est-ce qu'on va montrer avant tout, en fait, c'est la guerre d'indépendance. Alors bien entendu que la guerre d'indépendance, c'est un moment fondamental, c'est un moment crucial de toute cette histoire, mais c'est pas seulement ça, en fait. Il y a aussi, c'est toute une vie quotidienne, finalement, qui se déroule, et c'est important de comprendre et de connaître la vie telle qu'elle se déroulait en Algérie, la situation coloniale en tant que telle. Mais quelle était la vie des Algériens avant et au moment où les colons arrivent au 19e siècle, parce que là on a en fait des photos aussi qui sont parmi les premières, en fait, hein, de l'Algérie, même voilà, je n'ai pas trouvé de plus ancienne, autour de 1850 à peu près. Donc après on déploie un petit peu toute cette histoire-là sur la longue durée, la situation coloniale, donc où on voit en fait les Européens aussi en Algérie tels qu'ils vivent. Donc,
parce qu'il n'y a pas que des Français en Algérie, voilà, parce qu'on a tendance à parler de...
Bien sûr, ouais. Donc on a justement, c'est ça intéressant, parce que beaucoup de photos montrent la vie quotidienne des Algériens aussi. Et c'est vraiment là-dessus que j'ai voulu travailler, quand bien même on pourrait penser qu'il y en a moins, que c'est plus compliqué, des choses comme ça. Je suis allé essayer de creuser vraiment pour essayer de tout trouver ça. J'ai oublié de mentionner, une partie des fonds proviennent également des archives d'outre-mer. Les archives d'Aix-en-Provence. Et là, c'est la même chose aussi. On a des photos qui sont totalement inédites, des photos anciennes, des photos beaucoup plus récentes. Donc, le parti pris, ça a été de montrer cette vie quotidienne et de ne pas forcément montrer les aspects guerriers et les photos, en fait, de la guerre, parce que les photos de la guerre, on les connaît quelque part. On a déjà vu et on les a vues et revues, même, je dirais. Donc, ce serait pas de remettre tout cela, en fait, une énième fois encore sur le tapis.
C'est mais les photos dans le temps colonial, on les avait jamais vues dans votre livre. Il y a quand même des photos du temps colonial avant la guerre, justement, avant 54, qui sont importantes. Je sais pas, je viens d'ouvrir le livre. Le titre, c'est Un air du Far West. On est quand même dans quelque chose d'assez inimaginable, quoi, de penser qu'on, voilà, on est dans le désert et puis voilà, il y a la pauvreté, il y a tout ça, mais il y a en même temps une vie quand même.
Oui, complètement, ouais, tout à fait. Et alors, aussi, en fait, il s'agissait de montrer la vie telle qu'elle est et d'échapper aussi aux clichés orientalistes. C'est-à-dire qu'on a beaucoup ces images-là qui ont été très souvent montrées dans des livres de photos très, on va dire, classiques, simplement de montrer en fait des belles choses, mais qui sont des choses qui sont totalement clichés en fait. Avec, je sais pas moi, la peinture orientaliste, on voit un peu que telle qu'elle est, des femmes dans des harems, des choses comme ça, enfin des choses qui sont totalement fantasmées.
Mais qui dénudées quelquefois d'ailleurs.
Exactement, dénudées. Et donc il y a des photographes qui montrent ça, mais ça a été beaucoup en fait par la carte postale, beaucoup montré par la carte postale. Et en fait, ce que je me suis aperçu, c'est que dans les photos qui sont prises par les gens qui sont en Algérie, eh ben, en fait, il y a peu de clichés orientalistes.
Et donc, voilà. Donc, pourtant, dans les cartes postales, il y a ces photos de femmes, parce que je trouve que j'en ai beaucoup vu de... Voilà, c'est... Dans les brocantes, tout ça, il y a toujours ces boîtes de photos. Et moi, je vais dans la boîte Algérie et je vois, il y a scène et type. Donc, on voit effectivement des photos quotidiennes aussi de la vie en Algérie ou au Maghreb, puisqu'il y a souvent des photos. Il y a plus de photos d'Algérie, d'ailleurs, que Tunisie ou du Maroc, mais c'est vraiment, il y a des photos qui reviennent sur ces scènes et types. Et là dans votre livre, vous avez vraiment choisi dans votre... Alors, une grande sélection, parce que vous deviez avoir des milliers de photos à regarder. Il y a la campagne, il y a le quotidien, il y a la ville, il y a la ruralité, puisque dans cette période-là, c'est la ruralité. Et puis, il y a la vie dans les champs, il y a la vie à l'intérieur. Et tout ça, c'est des photos qu'on n'a jamais vues, vous venez de le dire. Mais c'est des photos qui sont la vie malgré tout. Je veux dire que là, dans le sud... On voit des hommes qui travaillent à la cueillette, on va dire comme ça, des dattes, en gros des dattiers, enfin, tout ça. On est dans quelque chose de très... on n'est pas encore... On est dans la colonisation, mais on n'est pas encore dans la guerre. Et ça fait partie de... Voilà, le livre de, voilà, se déroule comme ça. Après, il y a les rites, il y a la vie quotidienne. Et tout ça, c'est important de mettre les marqueurs dans le temps du 19e au 20e siècle de la vie des Algériens, de la vie en Algérie.
Oui, tout à fait. En échappant aux clichés, justement, comme je disais tout à l'heure, enfin, on va au-delà et c'est quasiment aussi, ce qui est intéressant, c'est que c'est quasiment de la photo de l'instantané déjà. C'est-à-dire que des choses qu'on va trouver bien plus tard, en fait. Et ici, en fait, les gens sont saisis, en quelque sorte, dans leur quotidien en tant que tel, au travail, chez eux, dans les rues. Plein d'éléments comme ça où on va retrouver effectivement le quotidien des gens.
Les moments conviviaux.
Voilà, les moments conviviaux aussi, effectivement, le jeu, les échecs, des choses comme ça. Et qui convient aussi de réinterroger, on va dire, d'une manière historique, pour montrer en fait qu'est-ce qu'il en est exactement de tel ou tel élément que l'on voit, où s'inscrit-on également les lieux. Ce dont je suis très content aussi, c'est que finalement la sélection de photos que j'ai faite, évidemment, j'ai pu consulter peut-être plusieurs dizaines de milliers de photos. J'en ai sélectionné 4000, puis 700, puis 400 pour arriver à 300, et encore plutôt 200, et puis c'est remonté à 300. Enfin, donc ça a été des choix qui sont assez terribles, hein, et qui, pour essayer de rendre un petit peu compte de toute la variété de toute cette histoire longue, on va dire, hein, sur plus d'un siècle, puisqu'on arrive jusqu'à une période postérieure à l'indépendance. Dans toute cette masse de photos-là, évidemment, c'est plutôt la photographie qui a été le critère de choix. Quelle photographie montrer par rapport à d'autres ? Alors, voilà, il y a des choix cornéliens, il y en a qui ne sont pas sélectionnés, c'est vraiment terrible de ce point de vue-là. Mais ce dont je suis très content, finalement, c'est qu'à posteriori, j'ai regardé, en fait, et on a fait des cartes là-dessus aussi, pour montrer où étaient prises les photos. Et en fait, on se rend compte qu'il y a vraiment...
Toute l'Algérie qui est balayée.
Ouais, Donc ça, je suis très content de ça aussi, parce que c'est pas en fait une région simplement qui est mise à l'honneur, c'est quasi, enfin c'est toute l'Algérie quoi. Donc et voilà, se retrouver sur telle place, en tel lieu, telle brasserie de Constantine par exemple, des choses comme ça. Enfin donc il y a tous ces éléments là et réinterroger aussi évidemment à l'aune de l'histoire coloniale. C'est-à-dire que ce que l'on voit là, qu'est-ce que l'on voit et qu'est-ce que l'on ne voit pas? Qu'est-ce que ça montre aussi de l'état des relations sociales et de la domination coloniale qui peut exister voilà. La ville européenne, évidemment, Alger, par exemple, c'est aussi la ville européenne et ça va être aussi la Casbah.
Voilà, le quotidien des Algériens. Ça va du petit sieur de chaussures en passant voilà. Par effectivement un autre regard dans Alger. Je disais que vous légendiez les photos avec bon la période etc. Mais plus que cela, vous faites aussi une dans les entrées de chapitres, vous racontez un petit peu l'époque Alger par exemple. Il y a une vous expliquez ce qu'est Alger et puis comment voilà c'est construit brièvement parce que vraiment le livre est aux photos, mais c'est important aussi de rappeler ce regard de l'historien dans le texte au-delà de la légende de la photo.
Oui, il faut recontextualiser toujours. Enfin, c'est pas simplement un beau livre, c'est aussi un livre d'histoire. Enfin, en tout cas, j'ai essayé de le rendre tel. Un livre de l'histoire du quotidien. Et donc ça me paraissait important aussi. C'est pas simplement un beau livre. Et c'est, voilà, j'ai essayé de... Je suis assez content. Enfin, voilà, après, on peut être plus ou moins content de certains livres. Celui-là, là où je suis vraiment content, c'est qu'il y a aussi un équilibre entre le texte et l'image. C'est-à-dire que c'est pas simplement que de l'image sans rien, c'est aussi du texte qui explique, qui remet un petit peu au contexte et qui, voilà, voilà.
Qui donne à comprendre aussi.
Qui donne
voilà.
À comprendre, ouais, voilà.
Tramer Kemener, vivre en Algérie du 19e au 20e siècle, c'est le titre de votre ouvrage. Il est l'invité de Voix au chapitre ce dimanche. Cet ouvrage vient de paraître aux éditions Nouveau Monde. On le retrouve dans un instant.
Voix au chapitre revient dans un instant. Beurre FM, 9h-10h, Voix au chapitre avec Samia Messaoudi.
L'invité de Voix au chapitre ce dimanche, je le rappelle, c'est Tramer Kemener. Il est historien, il est l'auteur du livre « Vive en Algérie du 19e au 20e siècle ». Ça vient de paraître aux éditions Nouveau Monde et nous évoquons depuis le début de notre émission avec Tramer Kemener justement ces images et ces textes qui accompagnent, qui illustrent ces images puisque c'est un livre d'histoire, pas qu'un beau livre, il nous le rappelait, il en a tout à fait raison puisque il s'agit d'histoire quand on parle d'Algérie dans ce livre. Il s'agit d'histoire, il s'agit du quotidien des gens, des hommes, des femmes, des enfants. Il y a beaucoup d'enfants dans le livre, d'enfants d'hier à aujourd'hui, c'est important aussi.
Oui, bien sûr, tout à fait. C'est vrai que les enfants...
D'enfants à l'école, d'enfants dans la rue, d'enfants...
Oui, tout à fait. C'est vrai que les enfants se prêtent beaucoup à la photographie, on va dire, hein. Même pendant la guerre d'indépendance. Donc c'est vrai qu'il y a pas mal de photos d'enfants. On les retrouve effectivement à la fois dans la rue, au travail aussi.
Au travail, oui.
C'est aussi une réalité que j'ai voulu montrer. Parfois aussi dans le mariage. Donc parce que franchement, il y a certaines jeunes filles, en fait, fillettes même, on pourrait dire, hein, qui sont mariées. Et puis évidemment, on les trouve à l'école. Alors ça, beaucoup plus. Alors de manière très ancienne, parce qu'on a quelques photographies en fait qui datent de 1850 d'enfants à l'école. Donc ça, c'est
l'école coranique souvent.
Oui, tout à fait. Ouais, exactement. Ouais, sur vraiment la période la plus ancienne. Donc c'est aussi intéressant à voir tout cela. Quelques photos qui sont un petit peu reconstruites, vraiment très anciennes. Et puis évidemment, des photos dans la période plus contemporaine, à la fois au moment de la guerre d'indépendance et après aussi. Donc avec, voilà, avec des images d'ailleurs qui sont voilà, dignes, certaines franchement je trouve dignes de Doineau, parce qu'on a vraiment...
dans une classe, tous les doigts levés qui veulent répondre à la question de l'instituteur.
Ou alors le
nez en l'air.
Qui est le nez en l'air, quasiment à regarder l'heure qui défile, ou la petite fille voilà, qui est endormie. Alors il s'agit là d'une photographie d'une école dans un centre de regroupement. Et donc se pose la question en fait aussi, quel est le quotidien de cette petite fillette? Est-ce que c'est une fillette qui finalement a été déplacée? Enfin, évidemment dans un camp de regroupement, oui. Est-ce qu'elle vient d'être déplacée? Est-ce que c'est une enfant quasiment réfugiée en tant que telle qui cherche à traverser la frontière tunisienne, par exemple. Donc il y a tous ces éléments-là, en fait, qui peuvent être réinterrogés à travers une belle photo, anodine, on pourrait dire, mais qui
est lourde d'histoire,
D'un point de vue historique, bien entendu. Et d'ailleurs, je suis très, très fier aussi d'une chose, il y a un chapitre, en fait, sur les réfugiés, il y a une photographe française qui s'appelait Dominique Darbois, qui était une militante anticolonialiste, qui a fait partie de ce qu'on appelle le réseau Janson, c'est-à-dire le réseau des porteurs de valises qui ont aidé le FLN et qui ont aidé à l'indépendance algérienne pendant la guerre d'indépendance, qui s'est retrouvée en fait en Tunisie et qui a été dans les camps de réfugiés algériens sur la frontière tunisienne. Et donc il y a tout un chapitre qui leur est consacré, avec de très beaux portraits aussi, et avec quelques enfants que l'on voit aussi, qui sont des enfants réfugiés, et là on va dire c'est aussi un chapitre qui pour moi est très fort évidemment dans ce qu'il représente. Après l'indépendance, on retrouve des photographies notamment de quelqu'un qui s'appelle Géo Morange, Georges Morange en fait, hein, Jo Morange, qui lui s'est installé en Algérie comme enseignant justement en 1950, au début des années 50, un peu juste avant la guerre d'indépendance, et qui a continué à vivre en Algérie après. Aussi,
qui est resté après 62.
Voilà, qui est resté après 62 jusqu'au début des années 70. Et en fait, il a vécu avec les Algériens, il a sympathisé avec les Algériens, il avait beaucoup d'amis algériens, plus que des amis français en tant que tels. Et on retrouve en fait aussi des personnes qu'il a côtoyées justement au cours de ces années 60, avec de très beaux portraits aussi que l'on peut retrouver, et puis des scènes de rue également. Donc au travail, les femmes, la question femmes après l'indépendance aussi.
Après l'indépendance, voilà. D'abord, c'est mon chapitre préféré, une indépendance féminine. Voilà, non, mais c'est toute une très très, très très belle photo de femmes à la plage, de femmes en chantant, de femmes dans la rue, et puis de femmes qui ont cette espérance, comme tous les Algériens et Algériennes, d'une Algérie indépendante, et qui vont être dans cette construction de l'Algérie. On aurait longtemps encore à parler avec vous, Tramer Kemener, tant vous êtes passionné de cette histoire de l'Algérie au travers ces photos. Il faudrait encore du temps pour toutes les décrire, et il y a vraiment beaucoup, beaucoup de photos. Mais j'invite vraiment les auditeurs, les auditrices à s'arrêter sur ce livre, Vivre en Algérie du 19e au 20e siècle, parce que c'est un livre passionnant, beau. Beau livre, oui, mais aussi d'histoire. Donc ça, c'est tout à fait intéressant. Peut-être parler d'actualité, si vous le voulez bien, on referme le livre. Et je disais en introduction, en vous présentant, que vous êtes historien de nombreux ouvrages, et vous êtes aussi membre de la commission Mémoire et Vérité qui a été mise en place là au lendemain du rapport remis au président de la République, demandé par le président de la République à Benjamin Steroy, et qui lui a été remis avec une préconisation justement de créer une commission, et vous faites partie de cette commission. J'avais envie de vous interroger justement sur quel est le devenir, ce que propose cette commission. C'est intéressant, puisqu'on en a longuement parlé avec Benjamin Steroy ici. Donc c'est la suite un petit peu de ce travail qu'on mène aujourd'hui sur le 60e anniversaire, certes, de l'indépendance de l'Algérie, mais l'avenir nous dira aussi si c'est important de rappeler ce que fut ce passé colonial, cette guerre de libération, et ce vivre ensemble aujourd'hui, et ce rapport entre la France et l'Algérie.
Oui, tout à fait. Donc, une commission, effectivement, doit exister, doit se créer. Pour l'instant, on est un petit peu en suspens. Donc, pour l'instant, rien n'est acté de manière officielle.
Il y a eu des propositions dans ce rapport qui avait été fait.
Oui, tout à fait. Le rapport Steroy préconisait préconisait 22 préconisations, une quinzaine qui ont été élaborées de préconisations. Dans les autres préconisations qui sont toujours en cours, on a notamment la création d'un musée ou d'un institut, enfin c'est quelque chose de cet ordre-là, qui serait en fait un musée de la France et de l'Algérie, Voilà, donc à Montpellier, c'est ce qui avait été préconisé. C'est quelque chose qui est toujours en cours aussi. Donc là, on attend aussi des décisions officielles. Et puis, dans la suite du rapport Stora, il y avait eu cette proposition faite aussi par l'Algérie, donc d'avoir une commission mixte d'historiens pour travailler sur...
Ça, c'est intéressant d'avoir ce regard partagé, échangé, en tout cas, avec les historiens algériens. Voilà, ça s'est fait quelquefois. Gilles Monceron, historien que vous connaissez sans doute, avait fait un travail avec Remaoun, Hassan Remaoun, donc il y avait eu un ouvrage en commun. Voilà, c'est intéressant ce travail-là.
Ouais, bien sûr, tout à fait intéressant. Ça avait été un des ouvrages pionniers qui m'avait beaucoup servi aussi d'ailleurs au moment de ma thèse. C'était, il date du début des années 90. Moi, j'avais commencé à travailler en 96-97. Et donc, ça avait été quelque chose de vraiment d'important. Et là, c'est quelque chose qui finalement, c'est une nouvelle étape qui doit se faire et d'aller dans le sens finalement d'un travail en commun, voilà, pour savoir faire un état des lieux aussi des archives, qu'est-ce qu'il existe, sur quoi est-ce que l'on peut travailler. Et je pense qu'il y a des chantiers qui sont tout à fait importants, notamment sur les essais nucléaires par exemple, la question des archives évidemment aussi, et puis quelques autres chantiers encore, les disparitions et autres. Donc ça, c'est vraiment des choses qui sont extrêmement fortes
et importantes pour travailler. Ouais. Merci Tramer Kemener, merci pour ce livre, Vivre en Algérie du 19e siècle au 20e siècle, je le rappelle, qui est paru aux éditions Nouveau Monde en collaboration avec le ministère des Armées et le CPAD. Au revoir. Merci. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre rendez-vous de Voix au Chapitre. D'ici là, portez-vous bien.
Retrouvez Voix au Chapitre tous les dimanches de 9h à 10h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.